Bonjour et bienvenue dans les chroniques de Flore et Jeanne, votre podcast 100% local. Je suis Flore et je reçois des professionnels, des passionnés, dont un des points communs est de vivre à Bordeaux et ses environs.
Bonjour Emma, merci de m'accueillir dans ces super locaux. Je suis époustouflée, tout ce blanc, c'est grand et tout, le rêve. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu ton parcours en tant que wedding planner?
Bien sûr, bonjour Flore. Alors, mon parcours, j'ai créé l'agence M Création Events en 2014. Pour la petite histoire, je n'étais pas du tout dans tout ce qui était organisation d'événements purs. Il faut savoir que les wedding planners en 2014, il n'y en avait pas beaucoup. Moi, j'ai fait des études UT Tech de Co, j'ai fait une maîtrise en import-export et pendant ma maîtrise en import-export, je bossais à l'hôtel Grand Barail à Saint-Émilion. Et je faisais le marketing, le commercial et l'événementiel, mais le peu d'événementiel qu'on faisait à cette époque. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit que ça me plaisait vraiment bien. J'ai bossé ensuite pendant 6 ans dans l'import-export de vaisselle, rien à voir. Et quand j'ai décidé de voler de mes propres ailes, donc c'était juste avant mes 30 ans, j'ai quitté cet emploi et j'ai envoyé un message à 6 personnes plus ou moins proches en leur demandant dans quoi est-ce qu'ils me verraient. Et les 6 m'ont dit bah, l'événementiel, 4 dans les mariages et 2 dans le luxe. Puisqu'ils m'avaient vu à Grand Barail, je m'étais vraiment épanouie dans ça. Les mariages, accessoirement, depuis que je suis toute petite, j'organise toujours tout. Donc les premiers mariages de mes amis, c'est moi qui ai aidé à tout organiser. Et donc en parallèle, j'avais contacté le rabbin de Bordeaux, que j'avais rencontré, qui m'avait amené à une bar mitzvah, qui m'avait amené à la salle du tir au vol à Arcachon à un mariage, une cérémonie sous la roupa, pour me montrer un peu ce que c'était et me dire bah, non, on s'en fiche que vous soyez une goye, c'est pas grave, à partir du moment où vous respectez tout ce qui est par rapport à la communauté, il n'y a aucun problème. Donc du coup, j'avais orienté à l'origine mon agence sur l'organisation de mariage de confession juive. Et au final, je crois que j'ai réellement eu mes premiers mariés 100% juifs. Alors j'ai eu des mix catho-juifs où on a fait des cérémonies d'engagement et on faisait quelques petits trucs rituels en fait de la communauté juive. Le premier je l'ai eu en 2017 seulement. Et le premier vrai mariage complètement juif sous une roupa, ça a été qu'en 2020.
Non, mais c'est étonnant parce que nous, on y va souvent à la synagogue.
Mais c'est hyper beau.
Ah, la synagogue est absolument sublime.
Et là, c'est vrai qu'on y va assez souvent pour des anniversaires et autres, parce qu'il y a des plein de salles. Pour
et puis au niveau de la cour, ouais.
Ouais. Et c'est top. On a ce point commun. Donc toi, tu t'es spécialisée surtout dans... Tu voulais au départ des gens de la confession juive, mais résultat des courses, c'est plutôt des gens qui viennent de l'étranger et des mariages chics.
En fait, à l'origine, je voulais voir pour une spécialisation parce que ça n'existait pas, mais moi, j'ai toujours été un peu le bisounours ouverte à tout le monde. Et du coup, il s'avère que... Enfin, je pense que je devais être une des rares wedding planners à l'époque à parler anglais et à bien parler. Donc du coup, mon site dès le début avait été mis en anglais. Donc j'ai commencé dès la première année à attirer des clients étrangers jusqu'à 2019. À chaque fois, j'avais plus de la moitié de ma clientèle qui était étrangère. Donc soit c'est des expats qui donc français expatriés, mais dont assez souvent un des deux en fait est
la famille ici et revient se marier ici.
Tout à fait. Soit c'est complètement des étrangers, juste ils ont un coup de cœur sur la région, etc. Et jusqu'à présent, on a référencé 36 nationalités différentes. C'est donc soit leur pays de naissance, donc par rapport à leur nationalité, soit leur pays où ils habitent tout simplement. Donc en effet, il y a un côté très cosmopolite. Il y a un côté très... on aime tout le monde, donc on a des mariages gays, on a des mariages lesbiens, on a des mariages de différentes religions. On a vraiment un petit peu tout. Moi, ça me ressemble un peu. Je suis quelqu'un de très sociable et que tu peux mettre à n'importe quel endroit qui connaît personne. À la fin, je fais la bise à tout le monde. Donc du coup, après, ma clientèle ressemble un peu... me ressemble un peu, c'est toujours ce qu'on dit, on a toujours des clients qui nous ressemblent. Et après, moi j'adore organiser en fait des mariages complètement différents et justement avec différentes traditions. Et le mariage différent a un certain coût, donc c'est pour ça que je me suis vraiment orientée sur le haut de gamme, pour me dire que à chaque fois mes clients vont avoir un certain budget pour que je puisse exploiter toute ma folie et ma créativité pour justement leur créer un super jour. Donc ça s'est vraiment développé et chaque année, en fait, on a de plus en plus des projets très haut de gamme, très poussés. Donc on augmente à chaque fois les budgets qu'on gère d'année en année, quoi.
Et alors ça se passe comment ?
Ça se passe, la plupart du temps, ils nous trouvent principalement via notre site internet. Mm-hmm. Le référencement du site, il est présent depuis 2014. On l'a créé le 21 décembre 2014, il a été mis en ligne. Donc du coup, il y a le fait de l'ancienneté, le référencement. Après, le bouche-à-oreille pur, c'est compliqué de faire du bouche-à-oreille sur des mariés. Mm. Alors ça fait 2 ans que j'ai des invités qui étaient là à un mariage où les parents étaient invités, du coup ils m'ont recommandé, etc. Mm. Ça commence, mais seulement depuis 2 ans. Donc tu vois, c'est pas obligatoirement ça le bouche-à-oreille qui va vraiment fonctionner.
Non.
Et puis on reste sur du sur-mesure, donc en fait, entre les gens qui me recommandent et ce qui est réellement signé derrière, ça se trouve, il n'y a pas de feeling entre nous, ça se trouve, ils ne vont pas aimer ma manière d'être, ma manière de parler, mon humour. Moi j'organise toujours en faisant des blagues tout le temps. Il faut qu'il y ait un feeling sur ça, donc c'est pas parce qu'en fait on m'a recommandé que de suite derrière ça va signer obligatoirement. Donc voilà. Et sinon ça se passe avec des lieux ou des traiteurs ou d'autres prestataires qui nous recommandent tout simplement. Il y a des lieux où on est référencé, il y a des lieux où on n'est pas référencé officiellement marqué dessus, mais par contre voilà, ils savent qu'on respecte leur lieu, ils savent qu'on donne une belle image de leur lieu. Donc du coup, puis on aime bien bosser ensemble, donc ils nous recommandent aussi. Et c'est ce qui permet de boucler les saisons. Et là, 2023, elle est bouclée depuis novembre.
Ça ne m'étonne pas.
Donc c'est vraiment cool et c'est stressant à la fois parce qu'on a des très très gros mariages, mais aussi c'est très apaisant puisque justement on sait qu'au moins
il n'y a pas à courir pour finir de remplir l'agenda.
Exactement.
Alors concrètement pour les mariés, ça se passe comment ? Donc imaginons je vais visiter un lieu, Barthe-Rode par hasard.
Au hasard. Je ne comprends pas pourquoi tu cites la cabane Barthe-Rode à la pointe du Cap Ferret.
Je ne sais pas non plus. Donc imaginons, je vais me marier, je visite ce lieu, j'en tombe red dingue, il me conseille tes services, je t'appelle, qu'est-ce qui se passe après ?
Alors, ce qui se passe après...
Qu'est-ce que tu vas me demander ?
On va d'abord faire un rendez-vous ensemble pour confirmer le feeling. C'est toujours la même chose, comme j'ai dit, si les clients... Ce que je dis réellement, je vais te dire exactement ce que je dis à l'entretien. C'est si ma tête ne vous revient pas ou si tout simplement vous n'aimez pas mes blagues, dites-vous qu'un an avec moi, ça va être compliqué.
Ça va être long.
C'est ça, exactement. En gros, je leur explique que moi, je rentre dans leur vie, qu'ils rentrent dans ma vie. Donc, à un moment, s'il n'y a pas une relation de confiance, s'il n'y a pas une relation de respect et de bienveillance l'un envers l'autre, ça ne va pas aller. Ça ne va pas se faire de leur côté comme du mien. Ce n'est pas du tout notre intérêt. Moi, mon intérêt, il est jusqu'au bout qu'ils soient contents. Et le jusqu'au bout, c'est après le mariage, en fait. Parce que c'est après le mariage qu'ils mettent les avis, qu'ils me rappellent pour me dire que c'était génial, qu'on débriefe, tout ça. Donc, c'est vraiment cet intérêt-là. Donc, on fait d'abord un premier rendez-vous. Si ça fonctionne, je leur fais un devis pour qu'ils puissent bien voir par rapport à la prestation qu'on aura convenue ensemble. Si tout fonctionne, on fait un contrat ensemble. Et ensuite, on commence par ce que j'appelle le rendez-vous d'Oliprane.
Qu'est-ce ?
Le rendez-vous d'Oliprane est un rendez-vous de 2 heures la plupart du temps où les mariés me haïssent après. Parce que je leur aurais posé je ne sais combien de questions.
Et ils vont avoir du travail pour y répondre.
Ils vont, ouais, tout à fait. Et puis, ils vont être fatigués parce qu'il faut savoir qu'eux, ils ont leur journée de travail. Et ils mettent au milieu de tout ça nos rendez-vous. Donc moi, c'est mon travail, ça fait partie de mes heures de travail, mais eux, c'est en plus. Donc avoir une blondinette pendant 2 heures qui leur pose des questions, il y a une nécessité de Doliprane après, ils ont mal au crâne.
Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment tu peux faire un devis avant ce rendez-vous Doliprane.
En fait,
parce que pour faire un devis, il faut connaître le nom de l'invité, qu'est-ce qu'ils veulent à peu près au niveau des repas, etc.
Et bien, c'est le premier rendez-vous. En fait, le tout premier rendez-vous qu'on fait, avant justement de faire le devis et le contrat, on passe à peu près 30-40 minutes à discuter et à échanger grossièrement sur ce qu'ils souhaitent, mais sans aller trop dans le détail.
Oui, mais que ça te donne des pistes, toi.
Exactement. Le but, en fait, c'est de voir déjà, moi, de par mon expérience, si en fait je peux correspondre à leurs demandes, si le budget, je suis capable en fait de répondre à leurs demandes par rapport au budget qu'ils ont prévu. Il y a certains clients qui me contactent. Je leur dis que je ne suis pas la bonne personne. Parce que tout simplement, il y a un certain niveau de gamme par rapport à moi, mes prestations et par rapport aux prestataires avec lesquels je travaille. C'est pas du tout du dénigrement envers les gens qui ont un budget moindre. C'est juste que moi, c'est ma tranche, en fait, ma cible clientèle que j'ai choisie tout simplement. Et donc du coup, parfois ça peut ne pas marcher à cause de ça. Ouais. Donc le tout premier rendez-vous, avant même de faire le devis, sert à ça. Sert à voir est-ce que déjà je match avec eux, est-ce que ça correspond, est-ce qu'eux aussi me correspondent. Parce que l'avantage en fait d'avoir déjà 9 ans d'ancienneté, c'est que maintenant je choisis mes clients. Il y a les premières années, je choisissais pas, il y a des fois où je suis bien tombée, il y a d'autres fois où je suis pas bien tombée du tout. Heureusement, la plupart du temps, on tombe très bien. Mais il y a toujours un couple par an qui n'est pas cool.
Il y a surtout qu'avec l'expérience, on pense à poser quasiment toutes les questions.
Ouais, dès le début, pour bien axer.
Voilà.
Parce que pour le coup, en fait, notre statut d'entrepreneur, c'est déjà compliqué d'être entrepreneur en France, d'être femme aussi, chef d'entreprise. Donc du coup, là, d'avoir des clients où ça ne se passe pas bien, on n'a pas le feeling et où il n'y a pas un comportement qui nous convient... Ben, il faut essayer de l'anticiper au maximum.
Je t'interromps une seconde. Dis-moi. Parce que ça m'a fait tilt. Wedding planner, t'as dit femme. Est-ce qu'il y a des hommes wedding planner?
À Bordeaux, je crois pas. À un moment, il y avait un couple qui faisait. Mais je crois pas qu'il y ait des hommes wedding planner. Absolument. Après, ça existe. Il y a des très grands américains qui sont très connus, qui sont des hommes.
Ah oui?
Ouais. Sinon, enfin, à Bordeaux, moi, j'en connais pas des hommes.
Non, ouais, moi, j'ai jamais eu de demande.
Non.
Donc, je t'avais interrompu. On était donc ce premier rendez-vous.
Il faut que ça se matche.
Il faut que les budgets correspondent.
Et comme ça, à la fin du rendez-vous, moi, je leur dis soit que je leur envoie un devis, soit tout simplement, ben, je leur explique pourquoi ça peut pas matcher. Assez souvent, c'est soit par rapport au projet, soit par rapport à eux, nous, notre feeling, soit tout simplement par rapport au budget. Et donc ensuite, devis, contrat, premier rendez-vous d'Oliprane. Premier rendez-vous d'Oliprane, suite à ça, ça me permet moi d'établir un budget prévisionnel et c'est ça qui va nous servir de base. Et ensuite, un rétro-planning. Si ils ont déjà leur lieu, comme les clients, là, l'exemple des clients de la cabane Barterotte, très bien. Je leur explique en fait dans le budget prévisionnel ben, tout ce qu'il faut prévoir puisque la cabane est un lieu un petit peu spécifique où il faut venir avec toute la logistique. Donc on fait un état vraiment de tout ce qui est nécessaire. S'ils n'ont pas leur lieu, ce premier rendez-vous d'Oliprane nous permet de voir quel type de lieu ils aimeraient que je leur propose. Et dans ces cas-là, je fais des recherches de lieux pour eux. Je leur envoie 5 à 6 propositions. La plupart du temps, je leur envoie une dizaine hein, parce que je vais leur envoyer tout ce que je vais pouvoir trouver si ça correspond à, bien entendu, leur demande. Si au final, suite à mes propositions, il n'y a pas ce qu'ils souhaitent, je les aurais prévenus avant de deux choses. Soit que ça n'est pas dispo à la date qu'ils souhaitent, soit qu'en fait leur demande n'existe pas à Bordeaux tout simplement.
Ouais.
Je pars du principe que ça fait 4 ans que j'ai plus de prospection à faire. En fait, les gens viennent à nous. Donc on a 600 emails non lus qui sont classés au fur et à mesure comme on peut dans la boîte contact. Et dès qu'il y a des nouveaux lieux, des nouveaux prestataires qui se lancent, dans tous les cas, on est dans la boucle, donc on est informé de ça. Si j'arrive pas à répondre à la réponse des clients, c'est qu'il y a un juste milieu à trouver. C'est soit justement leur demande ben, est un petit peu trop spécifique ou alors pas dispo à la date, mais ou sinon ça n'existe vraiment pas sur la région. Je connais quand même bien la région, donc j'arrive à bien axer sur ça. Et après, c'est toujours une histoire de confiance, d'expliquer les choses, de dire s'il y a des choses à adapter aussi, des concessions à faire de leur côté comme du mien.
Et il y a des fois des gens qui changent de date parce qu'ils veulent vraiment un lieu?
Jusqu'à présent, on a réussi à assez anticiper pour ne jamais avoir ce genre de choses. Quand les gens font appel à moi la plupart du temps un an et demi avant... parfois ça peut être juste 6 mois. Si c'est, on va dire, dans les 3-4 derniers mois, ils ont déjà leur lieu. S'ils n'ont pas leur lieu, je ne vais pas mettre en péril les autres mariages qui ont signé avec moi à temps pour des clients justement qui malheureusement en fait ont décidé juste 4 mois avant. C'est peut-être que d'autres wedding planners le feront et tant mieux, mais moi je trouve ça bien de bien se comporter par rapport à ces clients qui en fait nous ont choisi dans le bon timing. Si je peux bien entendu les aider parce que je sais qu'il y a un lieu qui serait parfait, qui serait dispo, je prends le mariage et je leur présente ce lieu. Mais si c'est trop de recherche et tout, que je prends du retard à cause de ça sur d'autres mariés.
Oui, on va pas pénaliser des gens qui ont été corrects pour les retardataires.
Donc, mais des fois, là, l'an dernier, par exemple, j'ai organisé un mariage on va dire, un mois et demi. Et l'année de reprise après le Covid, 2021, j'ai organisé un mariage 100% juif. C'était pas 2020, c'était 2021. 100% juif, Liza et Mathias, en 3 semaines.
Faut dire aussi qu'après le Covid, ça a été un petit peu spécial. Entre les gens qui avaient réservé un château, qui n'ont pas pu faire leur mariage, qui voulaient garder ce château, qui se sont retrouvés à se marier en semaine, ça a été quand même compliqué.
Ouais. Ah oui, non, ça, tout ce qui était à gérer comme ça, très très compliqué. Mais voilà, à chaque fois, on s'adapte dans tous les cas. Et une fois qu'on a le lieu et la date de défini, ensuite, on lance au fur et à mesure. Donc, ils ont un rétro-planning qui leur dit, en fait, le rythme de l'organisation. Nous, wedding planner, il faut se dire qu'on a plusieurs mariages à gérer en même temps. Et on fait...
T'en fais combien par week-end?
Alors, par week-end, moi, j'en fais qu'un. Ça m'arrive quelquefois d'avoir des doublons. Mais du coup, c'est pas moi qui fais la coordination de la journée, donc c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est le premier qui m'a réservé, qui m'a personnellement. Et du coup, je travaille avec des wedding planners qui font les coordinations pour moi.
Le jour J.
De mes anciennes collaboratrices, voilà, le jour J, pour ceux qui ont réservé la deuxième fois. Par contre, enfin, pour les seconds clients. Mais les seconds clients sont informés dès le début. Je suis super transparente sur ça, c'est même marqué sur leur contrat.
Oui, enfin, toi, voilà, t'as fait tout le suivi, donc a priori, pour le jour J, déléguer, c'est pas forcément problématique.
En fait, c'est surtout que je délègue à des gens qui ont déjà fait des coordinations avec moi. Donc, ils savent exactement comment je fonctionne. C'est moi qui fais les plannings, c'est pas parce que c'est une personne différente, en fait, qui coordonne. Que en fait là le planning va être différent, pas du tout, c'est moi qui fais le propre planning à ma manière pour ces personnes là donc il y a vraiment tout le process qui suit quoi. Mais par contre ça m'est même arrivé en 2018 d'avoir 3 mariages le même week-end, un le vendredi et 2 le samedi. Là c'était assez sport.
Oui, je veux bien croire.
Parce que du coup les plannings, c'est vu que c'est toujours moi qui les fais, voilà, les jours précédents ont été assez rush.
Mais... Parce que toi, le jour J, c'est tout ce qui est mise en... Enfin, tu vas nous expliquer exactement comment se passe la mise en place, etc. Je te coupe pas.
Non. En gros, nous, on supervise. On est là pour superviser. Les premières années, je faisais parfois du placement de chaises, bancs, etc., cérémonies, installations, désinstallations, pareil pour la déco, etc. Et au final, en fait, un wedding planner n'est pas du tout fait pour ça.
Bah non.
La journée n'est pas vivable, mais tu sais, quand tu lances une agence, tu fais un peu beaucoup de choses, tu prends un peu différents clients que tu n'aurais peut-être pas pris si on t'avait laissé le choix ou quoi que ce soit. Donc du coup, voilà, tu fais beaucoup plus. À partir de la 4e année, j'ai commencé à bien organiser tout ça. Et donc nous, on est vraiment là pour tout superviser en amont et ensuite coordonner la journée. Donc superviser en amont, c'est par exemple quand on a des tentes à installer, du mobilier, une certaine décoration, une scénographie, etc. On est là dès le vendredi en fait pour superviser l'installation de tous les prestataires. Ensuite, le jour du mariage, on est là, des préparatifs. Donc là, la première chose qu'on fait quand on arrive sur un lieu de mariage, c'est on va voir les mariés pour savoir un petit peu comment ça va, etc. Récupérer, si c'est eux qui se sont chargés de toute la petite décoration et de la papeterie de table, donc les marque-places, les menus, etc. On va récupérer tout ça. Et ensuite, pendant toute la journée, on accueille, on coordonne tous les prestataires. J'ai un client un jour qui m'a dit qui à l'origine ne voulait pas faire appel à moi, c'est sa femme américaine qui voulait absolument avoir une wedding planner pour la coordination de la journée. Et il m'a offert une bière à la fin du mariage avant que je m'en aille. Il m'offre une bière et il me dit en fait j'ai compris ce que vous faisiez. Il m'a dit Mal, vous êtes un chef d'orchestre. J'étais là, oui, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que n'importe quel prestataire sait faire son travail sans un wedding planner. Il faut arrêter de penser que le wedding planner, c'est le petit chef, c'est la personne qui est incontournable ou quoi que ce soit. Pas du tout, en fait. Chaque prestataire sait faire, sauf que nous, on est là pour optimiser que tout soit fait de la bonne manière et dans le bon sens, et optimiser la vie des mariés, des invités, mais aussi des prestataires. C'est-à-dire que les pressés, ils sont contents, en fait, de nous avoir, dans le sens où on optimise aussi eux, leur vie, on supervise tout en amont pour que quand ils arrivent, ce soit tellement plus agréable.
Ouais, ben, je suis bien placée pour le savoir. Tout est prévu pour les enfants, le moindre détail, c'est du rêve, alors que sur certains mariages, on arrive, on devait soi-disant avoir telle chambre pour coucher les petits ou tel endroit pour la soirée. On se retrouve 2 heures dehors la nuit sans éclairage, à devoir animer la soirée des enfants jusqu'à 1 heure du matin sans rien, quoi. C'est bon, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Hein.
Alors non, avec moi, il y a les mariés qui louent une villa supplémentaire juste pour les enfants.
Ouais, donc je suis bien passée pour dire que pour nous c'est le rêve. Tout est prévu.
On est là pour que tout le monde passe une bonne journée, que ce soit les mariés, les invités et aussi les prestats. Le but, c'est que les prestats, en fait, ils aient envie de retravailler avec nous après.
Oui, et puis surtout que le prestat, il est sûr de faire sa prestation correctement parce que tout a été pensé et prévu pour lui. Alors que si un prestat, il est excellent, mais que les conditions sont déplorables, il va faire du mieux qu'il peut, mais ça va jamais être top top.
Ah, mais dans tous les cas, c'est à chaque fois du donnant-donnant. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les relations humaines. Donc voilà. Et après, ben, on va accueillir les invités et orienter les invités au fur et à mesure. Donc, le but, c'est de créer des mouvements. Et en fait, au fur et à mesure, on les fait se déplacer d'un accueil, rafraîchissement, d'une cérémonie, d'un cocktail, passer au dîner. On est là pour tout superviser en amont avec les proches aussi pour les interventions de la journée. Puisque nos clients, on s'occupe de tout avec eux. Mais par contre, il y a un moment voilà, qui est surprise, c'est tout ce qui est les animations, les discours, etc. Et donc, on est la personne qui...
Dans le secret.
Exactement au courant de tout ça, qui faisons en coordonnant toutes les surprises, qui devons parfois mentir aux mariés en disant que non, on ne peut pas faire ça à ce moment-là parce que nous, on sait qu'il va y avoir une petite surprise, mais qu'eux, ils ne le savent pas.
Et comment vous faites justement pour les surprises dans la mesure où vous êtes en contact, en fait, tu n'es en contact qu'avec les mariés?
Eh bien, non, en fait, 2 mois avant, on rentre en contact avec les proches, et donc famille et témoins.
Ce qui explique comment les petites surprises sont possibles.
Exactement. Mais à l'inverse aussi, si les mariés ne souhaitent pas quelque chose comme une rétrospective, un PowerPoint de toute leur vie depuis qu'ils sont nés, eh bien, on est là aussi pour expliquer aux proches que les mariés n'aimeraient pas trop ça. Du coup, peut-être vous pourriez aller vers ça. Et on leur suggère des choses. On a un fichier, en fait, où on a récapitulé des animations sympas et pas kitsch. Je dis bien pas kitsch. pour leur soumettre s'ils n'ont pas d'idée. Ouais. Et en fait, chacun nous répond, nous dit, ben voilà, moi je veux faire un discours, moi je voudrais faire telle animation, etc. Et c'est nous qui allons leur dire, ok, c'est à tel moment, ça sera à tel moment, je viendrai vous voir. Et donc, quand tout le monde arrive sur le lieu, au fur et à mesure, on rencontre les personnes pour que visuellement, on sache qui ils sont. Ou de même, en fait, ils viennent nous voir. Ah oui, moi, je suis le papa de la mariée, je suis le témoin, etc. Avec toute la bande de potes là, ok. Et en fait, avant qu'ils fassent leurs interventions, moi, je vais les voir 5 minutes avant. Je vais leur dire, voilà, dans 5 minutes, donc vous allez intervenir ici. Moi, je vous passerai le micro. Du coup, vous vous placerez là. Vous attendrez juste mon top, puisqu'il faut être sûr. Toujours la même chose. On n'est pas les seuls prestataires sur un mariage, donc quand tu lances un discours et que tu as le photographe et le vidéaste qui sont pas prêts, ben c'est pas cool. Ouais. Donc moi à chaque fois j'explique en fait aux invités qui vont intervenir que tout simplement il faut qu'ils attendent mon top, donc on parle beaucoup, alors là ça se voit pas vu que c'est un podcast, mais je fais la plongée sous-marine, donc je fais des signaux de plongée sous-marine. J'ai le photographe, le vidéaste et le DJ, tout le monde est bon, tout le monde fait le ok de plongée et du coup je peux donner le micro à l'intervenant et on avance comme ça au fur et à mesure. Mais le but, c'est que chacun ait sa matière de travail aussi. Et ensuite, on reste jusqu'à la première danse. Et ensuite, on fait un brief avec les prestats qui restent. Donc, assez souvent, c'est le DJ ou groupe de musique, plus le maître d'hôtel. Et on fait un brief sur ce qui reste. Et ensuite, on peut rentrer à la maison et on est content.
Et donc, ça veut dire que sur chaque mariage, tu vas proposer plusieurs traiteurs, plusieurs fleuristes, plusieurs...
Alors, sur... Par rapport aux prestataires, on propose de 1 à 4 prestataires par type de prestation. En gros, suite au rendez-vous d'Oliprane, ça m'aura donné des idées un petit peu de ce qu'ils souhaitent.
Ouais, ce qu'ils aiment.
Voilà, tout à fait. S'il n'y a pas quelque chose de vraiment très très défini, où je sais que le prestataire très très défini...
C'est lui.
Voilà. Je vais proposer en effet un choix. Par contre, je vais expliquer aux clients que parfois, je vais juste leur proposer un seul prestataire, mais parce que je sais que c'est parfaitement lui. Donc ça va être une question de confiance, c'est aussi à moi argumenter, à ce qu'ils comprennent et qu'ils soient d'accord en voyant en fait ce que je leur propose. Et on travaille comme ça au fur et à mesure. Mais la plupart du temps, ils ont quand même, pour les traiteurs notamment, il y a toujours un choix. Ça arrive quelquefois qu'il n'y ait qu'un seul traiteur proposé.
Ah oui.
Ben, s'ils veulent vraiment quelque chose de précis, et moi je connais certaines spécificités de certains traiteurs, donc du coup dans ces cas-là on va aller sur un précisément. Là cette année, le jeudi 10 août, si je ne me trompe pas, oui jeudi 10 août.
C'est pas moi qui vais te contredire.
Nous avons le mariage de Holly et Phil. Holly et Phil sont un très 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 petit mariage de 13 adultes et 6 enfants. Et Holly et Phil sont vegan, donc ils acceptent que on n'est pas un repas 100% vegan parce que c'est compliqué d'imposer ça à leur famille. Ils viennent pendant une semaine en vacances avec leur famille, donc du coup on a opté pour une traiteur végétarienne, et c'est une toute petite traiteur. On n'a pas besoin dans ces cas-là d'avoir vraiment tout le staff qu'on a pour 100, 150, 200 personnes. Donc là, on va vraiment travailler sur quelque chose d'assez cosy, etc. Et donc, pour ça, il y avait une traiteur qui était vraiment super et qui correspondait et qui matchait. Donc du coup, voilà, je leur ai proposé. Ils ont de suite adoré. Et là, on travaille sur toute la carte, etc. Ça permet aussi de rebondir sur le fait qu'ils sont étrangers. Ils habitent en Australie, au Liéphile. Comment ils font pour déguster? Eh bien, ils ne viennent pas déguster les concernant. Ou alors, s'ils veulent faire une dégustation de certaines choses, ils vont le faire 2 ou 3 jours avant le mariage. Mais c'est tout. Mmh. Là, pour le coup, ça ne va servir à rien. Pour les autres étrangers, les dégustations, ils arrivent toujours à venir, comme je suis réservée 1 an à l'avance, on va dire que le traiteur, on le travaille sur novembre, décembre, janvier. Ils vont arriver à venir, en fait,
Pendant
des vacances, peut-être pendant une semaine, etc., en France. Soit c'est des expats, ils viennent voir la famille à Noël. Alors, on essaie de faire un petit peu avant Noël parce que les traiteurs sont fermés, et nous aussi, entre Noël et Nouvel An. Donc, on essaie de s'organiser comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'ils font les dégustations. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients qui ne dégustaient pas et c'était moi-même qui allais déguster. Et pour la petite histoire, la première fois que ça m'est arrivé, c'était un couple de Savoyards qui était restaurateur, donc impossible pour eux de venir. Et j'y suis allée avec mon papa. Et donc avec mon papa, nous avons fait 2 traiteurs. Et depuis 2016, j'entends à chaque fois que oui, ma fille, il fut un temps où tu m'as mené à des dégustations avec toi. Voilà. Et que maintenant, je ne l'amène plus. Dame, mais vraiment, je suis une fille horrible. Donc voilà, mais ça, voilà, quand on peut pas faire les dégustations, il m'envoie moi, ou alors on arrive à trouver peut-être quelqu'un aussi de la famille, etc., qui peut venir avec nous. Voilà.
Donc toi, tu proposes le lieu, le traiteur, tu t'occupes de tout ce qui est faire-part aussi, je suppose. Là, tu travailles avec des illustratrices ou
Non, ça va dépendre en fait de ce que les clients demandent. En gros, on a soit un package d'organisation complète, donc où on organise. Sans la scénographie, donc on organise sur les prestataires. Donc en gros, le listing des prestataires, c'est le lieu, le traiteur, la location de mobilier, les fleurs, on les conseille sur la décoration. C'est pas nous qui faisons la décoration, mais on les conseille sur la décoration. On s'occupe musique, photographe, vidéaste si besoin, leur officiant de cérémonie, tout ce qui est la mise en beauté de la mariée. Et ensuite, tout le reste est optionnel. Ils peuvent nous rajouter s'ils souhaitent une scénographie. Dans ces cas-là, une scénographie, on s'occupe entièrement de toute la décoration, on s'occupe de toute la papeterie aussi, de la mise en lumière, on s'occupe des cadeaux d'invités, ce genre de choses, vraiment on supervise tout. Les clients étrangers, ils nous prennent ce package global avec la scénographie, parce que c'est plus. C'est plus, ils sont plus sereins justement sur ces parties-là pour être sûr en fait de ne pas avoir à gérer de la déco, un panneau de bienvenue, ils savent pas où le livrer, ils savent pas chez qui le faire, etc. Donc voilà. Pour la papeterie, moi personnellement, j'aimerais énormément qu'on me fasse des demandes sur de la papeterie sur mesure, avec notamment des illustratrices, dont une que j'ai reçue dernièrement la proposition, j'arriverai pas à me souvenir de son prénom, mais c'est absolument sublime en fait ce qu'elle fait à la peinture, à l'aquarelle. Mais sinon, la plupart du temps, on a une sorte de partenariat avec Cotton Bird, qui est un site français, ils sont dans le sud-est de la France, tout est réalisé en France, c'est leur propre design, et du coup, ils ont un panel qui est très large, et comme je leur envoie beaucoup de mes clients, du coup, on a des codes promo avec eux, pour nos clients, avec nos codes, un code spécial de la création Events.
Sympa.
Donc, oui, tout à fait, ça leur permet d'avoir 30% dessus et tout. Et puis, c'est vraiment très sympa. Même moi, à titre perso, quand quand j'ai fait ma papeterie, je l'ai aussi commandé chez eux. Donc voilà. Et après, sur les autres prestataires, on n'a pas de prestataire vraiment défini ou quoi que ce soit. Ça va dépendre de la demande, mais on a nos petits préférés, le DJ. Moi, j'ai un DJ que j'adore, Mathias. Et après, il y a plein de groupes de musique avec qui j'adore bosser. Mais c'est toujours la même chose. Quand tu recommandes en fait des prestataires, c'est aussi... dès le début, j'annonce, je dis ben voilà, eux j'ai déjà travaillé avec eux, etc. Ça peut être sympa. Ou alors eux j'ai jamais travaillé avec eux, mais je pense vraiment qu'on pourrait faire créer ça et ça. C'est un peu le but aussi de pouvoir se renouveler. Mais je suis quelqu'un de très fidèle, donc si j'ai des prestations qu'on me demande qui correspondent à quelque chose que j'ai déjà travaillé et que, ou alors il y aura juste un petit ajustement où le prestataire est tout à fait capable de le faire, je vais plus mettre en avant en effet des prestataires avec lesquels
C'est toujours pareil, quoi. Une fois que la confiance est installée, c'est plus serein le jour J, je suppose.
Ouais.
Parce qu'à nouveau, même si il semble très bien, il y a toujours le petit risque.
Mais c'est le risque, notamment c'est dommage, quand mais... c'est les mariés qui choisissent eux-mêmes certains prestataires et qui, du coup, te les amènent. Parfois, tu as des surprises avec des gens, tu auras beau cadrer avant, des gens qui ne sont pas super carrés, etc. Donc, c'est toujours un peu à nous à récupérer le bébé aussi le jour J et à faire que tout se passe bien. Malgré le fait que ce soit pas un super
mais ça
prestataire.
Arrive souvent.
J'ai parfois des prestataires qui sont choisis par les maris. J'ai ma grosse problématique, c'est quand c'est des photographes et que c'est pas des photographes
professionnels.
Si professionnels, mais pas. On doit pas avoir la même
façon de voir les choses.
Ouais, je pense la même façon de voir la qualité et les mariages en fait. Je pense qu'il y a des photographes qui sont très bien sur tout ce qui est grossesse, sur tout ce qui est portrait, etc., mais qui ne sont pas faits pour le mariage.
Oui, parce que là, il faut vraiment prendre les moments fugitifs.
Tout à fait. Et pas faire non plus des choses kitsch, ce genre de choses. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir un photographe ou au final qui était choisi par les mariés parce que c'est le pote d'un pote ou quoi que ce soit. Et moi, je ne peux pas utiliser les photos après en vitrine parce que c'est pas joli. Et c'est pas mes mariés qui sont pas jolis, c'est juste les photos et le style, quoi. Mmh. Donc ça, c'est le plus compliqué. Et notamment, photographe et vidéaste, en fait, c'est le seul prestataire où je vais pas rechercher. En fait, j'ai un listing de photographes et de vidéastes. J'ai presque une quinzaine de photographes avec lesquels que je recommande, avec lesquels j'ai déjà travaillé.
Et du coup, ça fait beaucoup, 15 ans ?
Ouais. Mais
tant que ça, des bons photographes.
Oui, pour le coup, oui, tout à fait, madame. On a déjà fait presque 80 mariages, donc dans le lot, quand même, pour le coup, ça va. Et en fait, donc, on a une quinzaine comme ça avec lesquelles on a déjà travaillé et on a aimé travailler et on aime leur style. Et en deuxième page, les photographes avec qui j'ai jamais travaillé, mais que je soumets parce que j'aimerais beaucoup travailler avec eux, parce que c'est très beau ce qu'ils font. Et des fois, on a des maris qui piochent dans cela. Donc,
oui.
Voilà. Donc du coup, là, on va un peu plus rentrer, on va boire un café avec eux, on va un peu plus rentrer dans le vif du sujet, contacter des personnes qui les connaissent.
Mais là, c'est pareil, les photographes, c'est un petit peu comme d'autres prestataires, comme les lieux qui se font connaître auprès de toi.
Les photographes, c'est uniquement, en effet, deux choses. Soit ils m'envoient un email en fait de contact. Comme je te dis, sincèrement, tous les jours, on doit avoir 3 ou 4 nouveaux contacts de prestataires. Donc tu multiplies ça par 365 jours. Ça
oui,
fait
ça
beaucoup.
Fait beaucoup.
Soit c'est le malheur d'Instagram. C'est-à-dire que tu te balades sur Instagram et là tu fais mais c'est joli ça. Mais j'aime beaucoup ce style, mais c'est sympa. Et en fait, on rajoute comme ça, tout simplement. Les deux solutions, soit c'est eux qui nous contactent, soit c'est parce que voilà, on les a vus via les réseaux et qu'on trouve leur travail sympa.
Ok. Donc, on a vu pas mal de choses là, mais vraiment. Il nous manque quoi ? Ton quotidien ? Autrement, on aura balayé presque toutes les questions que j'aurais pu poser. Tu as apporté tes réponses toutes seules. Donc toi, une journée type, c'est quoi ? Est-ce que ça existe, une journée type ? Voilà, c'est comme moi, ça n'existe pas. Il y a la journée, en théorie, qui n'existe jamais.
Mais en vrai, alors déjà, la journée type...
Ça va dépendre de la saison, en plus.
Exactement. Mais il ne faut pas se leurrer, c'est devant un ordinateur. Les gens qui pensent que les wedding planners sont toujours
se promènent,
par vous, partout, Ça n'est pas vrai, en fait. En gros, les moments où on ne va pas être au bureau, c'est parce que nos clients viennent spécialement pour 2-3 jours, qu'on leur prévoit tous les rendez-vous à ce moment-là.
Et que tu les accompagnes.
Voilà. Moi, dans tous les cas, je les accompagne partout. Les clients ont leur contrat avec les prestataires sous leur nom. C'est eux qui payent directement les prestataires. Mais par contre, c'est moi qui supervise tout pour eux. Ils font appel à nous et ils payent un certain budget pour faire appel à nous pour en fait qu'on leur facilite la vie. Ben oui. On s'adresse à des gens qui sont pas de la région, assez souvent, qui sont pas, enfin, qui ont pas le temps de parler. On est sur des CSP++, des chefs d'entreprise, etc. Ou tout simplement qui n'ont pas la créativité. Donc ils attendent ça de nous. Donc quand on les accompagne, c'est même la plupart du temps nous qui les baladons dans notre voiture. Et on leur fait en même temps la visite touristique de la région parce qu'on connaît bien la région. Donc voilà, oui, parce que nous sommes guides touristiques, nous sommes agents immobiliers aussi quand nous devons chercher des nouveaux lieux, notamment sur le bassin d'Arcachon, il faut être agent immobilier. Voilà, on a plusieurs facettes. Et donc la journée type, on va dire, c'est devant l'ordinateur à créer le mariage au fur et à mesure. Donc, créer le mariage, c'est faire des demandes de devis, faire des rendez-vous avec les clients, donc en visio ou en vrai, faire des récaps par email, faire des suivis de budget,
créer des récaps. Tes récaps, j'adore. C'est toujours hyper clair, avec les petits tirets, les parenthèses, j'adore.
Mais en fait, c'est comme le planning du jour J. Je suis partie du principe que sur une journée de mariage, on peut avoir des gros coups de pression. Donc si à un moment on est dans un gros coup de pression et que le cerveau se met en mode je ne fonctionne plus, je ne comprends plus ce qui se passe, il faut que le planning de chacun des prestataires
soit
assez compréhensible pour en fait que n'importe qui n'est pas wedding planner puisse suivre le truc. Donc parfois je me répète ou je fais des longues phrases, etc. Mais j'explique toujours les contextes, etc., enfin de toutes les informations, et j'essaie d'être
non, mais c'est
plus clair.
C'est vrai. Non, mais vraiment, moi j'adore. Hein. Non, parce que des fois, c'est vrai qu'il faut partir à la quête au renseignement, et c'est petite goutte par petite goutte. Ouais. Et on se dit, J-5, il me manque encore 6. Hein. Tandis que toi, tout est carré dès que c'est possible. C'est génial. T'as des projets ?
Oui, tout à fait. Un petit truc qui est assez sympa en ce moment, c'est qu'on fait du consulting pour des lieux de réception.
Ouais.
En fait, j'ai des amis architectes qui rénovent des châteaux, etc., un peu partout dans la région. Et ces châteaux font des salles de réception, c'est souvent des châteaux familiaux. Et en fait, ils ont besoin d'avoir des informations, enfin des conseils sur qu'est-ce qu'il faut dans une salle de réception, qu'est-ce qui est le plus joli, qu'est-ce qui est le mieux, etc., pour optimiser. Et en fait, du coup, mes deux amis archi font appel à moi pour faire du consulting auprès de château. Donc ça, c'est une activité annexe qui est très sympa. Demain, on va à Margaux justement pour aider un des châteaux, enfin conseiller un des châteaux. Et du coup, c'est assez sympa parce que c'est...
Mais pourquoi ils font pas plutôt appel à des décorateurs ou...
Alors, en fait, il y a un côté décorateur, bien entendu. Il y a l'archi en lui-même avec le côté technique, avec les maîtres d'œuvre, etc. Donc ça, c'est eux, ils vont faire cette partie-là. Mais par contre, nous, en amont, moi, je vais les conseiller sur ce qui se fait habituellement, ce qui fonctionne bien ou pas bien. Par exemple, pour le rendez-vous de demain, j'ai eu 5 des châteaux avec lesquels j'aime beaucoup travailler qui ont 5 sols différents. Et je les ai appelés, j'aurais chacun demandé de me dire les avantages et les inconvénients de leurs différents sols. Donc ça, par exemple, d'avoir ce carnet d'adresses-là et d'avoir ces informations-là aussi rapidement, c'est pas une décoratrice d'intérieur ou un maître d'œuvre de BTP ou un archi qui va pouvoir les avoir. Donc du coup, c'est aussi en fait notre carnet d'adresses et notre expérience qui fait que je savais déjà quels 5 lieux je devais appeler. Et ensuite, on va les aider par rapport à ce que un décorateur d'intérieur, par exemple, va te dire, ce qui est un petit peu design, etc. Nous, l'intérêt, c'est que les gens veulent sortir un peu de l'ordinaire. Donc, moi, j'ai une très bonne mémoire visuelle. Donc, je vais avoir en tête ce qui se fait beaucoup dans la région et ce qu'on n'a pas encore, ce qui serait joli, ou alors tout simplement ce qui fonctionne très bien, etc. Donc, l'avantage de faire appel à un wedding planner ou à un responsable traiteur, ils auraient pu demander aussi à un responsable traiteur.
Oui, quelqu'un qui connaît plein de lieux.
Exactement. Donc, du coup, on fait aussi du co-sitting comme ça.
Mais ça, c'est nouveau ?
En fait, la première fois que je l'ai fait, c'était il y a 2 ans. L'an dernier, je l'ai eu 2 fois aussi. Et là, cette année, j'ai un peu plus de demandes. Pour le coup, C'est une activité annexe que parfois j'oublie d'en parler. Là, c'est dernièrement, en fait, on en a un peu plus parlé puisqu'on a rendez-vous, on enchaîne les rendez-vous avec la cliente. Mais ouais, c'est quelque chose d'assez nouveau qui s'est fait par un pur hasard.
Comme souvent. Coup,
exactement, comme souvent. Via un club d'entreprise dont je faisais partie, tout simplement.
Ah ben bah oui.
voilà. Et après on organise, donc là le nouveau gros projet c'est l'organisation de vacances pour des étrangers. Donc on a une certaine clientèle qui nous demande d'organiser des vacances pour eux et on l'a fait l'an dernier pour 28 Américains pendant une semaine, la semaine de la fête nationale. Ils sont arrivés le lundi 4 juillet, ils avaient une semaine entière de vacances qui est entièrement supervisée par nous. Donc ils ont juste à suivre le move et puis voilà.
Non, c'est génial.
Oui, c'est pas des packages tout feu ou quoi que ce soit. C'est comme un mariage. Pour moi, c'est le même process qu'un mariage. Je vais apprendre à les connaître. Ils vont d'abord avoir un rendez-vous d'Oliprane avant que je leur fasse des propositions. C'est toujours la même chose. C'est en fait savoir qui vous êtes.
Bah oui, savoir s'ils préfèrent visiter les châteaux ou aller faire des musées ou aller à la plage.
Ou aller faire des cours de surf en bas de la dune du Pila. Enfin voilà, c'est tout ça qui est important. Et j'ai eu dernièrement une cliente prospect qui n'a pas donné suite. Et je comprends en fait qu'elle n'ait pas donné suite concernant son mariage. Parce qu'en fait, à un moment, elle a commencé à me dire « Oui, mais du coup, vous devez proposer des packages, etc. Comme ça nous permet d'avoir des tarifs plus intéressants avec les prestataires et tout. » Et je lui dis « Ben non. » Elle me dit « Je sais pas en fait comment on fait pour rentabiliser votre tarif. » Je lui dis, vous faites pas. Elle me dit, mais vous n'êtes pas du tout commerçante. Je fais, vous n'êtes pas du tout commerciale. Je fais, je suis pas commerciale, mais je suis commerçante en fait. Dans le sens où faire appel à un wedding planner ne va pas vous faire économiser en fait le tarif du wedding planner, mais va vous assurer d'avoir des prestataires qui tiennent la route, qui sont professionnels.
Et puis avoir l'esprit tranquille, quoi.
Ouais. Oui, mais il y a.
Le nombre de gens, moi, qui me disent, si j'avais su, j'aurais pris un wedding planner, quoi.
Mais ça, c'est sur la charge. Sur la charge émotionnelle, de stress, mentale, etc. Ça, c'est sûr et certain. Après, il y a des gens qui sont tout à fait capables d'organiser leur mariage, de trouver les prestats.
Après, il faut savoir que ça prend quand même du temps.
Exactement, c'est ça. Nous, c'est l'expérience, en fait. Notre carnet d'adresse, ça fait 9 ans qu'on l'a.
Et puis, donc, comme tu dis, c'est ton travail. Donc, ça veut dire que s'il faut que tu te déplaces pour aller visiter un nouveau lieu que la personne veut, tu vas prendre ton après-midi dans ton temps de travail pour visiter ce lieu.
Tout à fait.
Alors que si c'est toi qui te maries, c'est un jour de congé que tu poses ou... Mm-hmm. Toute la différence est là, quand même.
Mais il y a une réelle différence. Et il y a aussi, là, concernant, en tout cas, cette prospect... Elle me dit, oui, mais moi, si j'étais wedding planner, je ferais des packages. Oui, si j'étais wedding planner, on l'entend très souvent. Moi, je ferais des packages avec les prestataires. Et comme ça, ça permettrait d'avoir des tarifs préférentiels puisque ces prestataires seraient assurés de travailler plusieurs fois dans l'année avec moi. Et je dis, oui, mais dans ces cas-là, je ne vendrais pas du sur-mesure.
Bah oui.
Tous mes mariages sont totalement différents. Les menus chez les traiteurs, on ne prend pas les menus qui sont sur la plaquette. Je leur dis ce que les mariés aiment et ensuite ils me font des propositions et on mixe tout ça. C'est ce qu'on appelle réellement le sur-mesure. Mmh. Il y a des gens qui utilisent ce terme de sur-mesure en disant ben oui, voilà. On a un traiteur qui va être différent des autres. Non, là en fait, nous on est au détail près, en sur-mesure. On crée par rapport autour des mariés.
Oui, mais ça, de toute façon, sur-mesure et clé en main, c'est les phrases bateaux.
Qui sont toujours utilisées, mais pas à bon escient.
Mais voilà, le problème, c'est que très souvent, ceux qui disent sur-mesure, c'est pas vraiment du sur-mesure.
Non, et du coup, ceux qui font vraiment du sur-mesure doivent expliquer ce que ça veut dire le vrai sur-mesure.
Je l'ai eu encore ce matin en disant, Boudou, c'est du vrai sur-mesure.
je trouve ça, mais bon,
écoute, c'est comme ça. Bon, écoute, moi je crois qu'on a fait le tour, c'était génial, comme d'habitude.
Je suis un peu plus là, je suis désolée.
Beaucoup d'informations, de bonne humeur. Non, mais ravie de. Je suppose que tout le monde va être très content d'avoir eu toutes ces infos. En plus, on fait quand même beaucoup de mariages dans des jolis lieux, avec du sur-mesure.
Du quoi? Du sur-mesure.
On va couper?
Ça marche.
On coupe.
Merci.